Bonjour et bienvenue, veuillez nous excuser, nous sommes le samedi 1er mars 2008, il est mi... Merde.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles et nous sommes donc pas le samedi 2 mars, on est le samedi 1er. Ah merde, hier c'était une année bissextile, j'ai complètement oublié. Ah c'est pour ça, je me suis... Non mais parce que j'ai commencé à m'installer tout à l'heure dans les studios de Booster FM, comme d'hab, je fais mon émission dans un studio propre, correct, nickel. Et... Ah merde, ah bah j'ai pas préparé le supplément week-end du coup. Attends, non c'est pas possible, il faut qu'on le refasse. Bonjour et bienvenue, nous sommes donc le samedi 1er mars 2008 et il est exactement midi 1.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
Ça vide dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer, maintenant, le supplément week-end avec l'actu BD TV suivi de, ça c'est du sport, les résultats sportifs à 13h pile en direct des vestiaires et de l'infirmerie. Et ensuite, à 15h, vous aurez du reggae avec Jazz Not Dead. À 17h, ça c'est la bonne viande de la bonne découverte du musical. À 18h, Big Bang, The Rock and Roll, non, du sport. C'est jusqu'à là, d'ac, c'est, oui. À 19h, Made in Trance. 20h, la CTRO Experience de l'électro bien barré. 21h39, Love, Studio Step. Et à 23h, du rock avec le potager. Et c'est complètement en live complet. Comme vous l'avez compris, nous nous sommes fait avoir par le déroulement de la semaine puisque, en fait, j'avais l'habitude que la suite du 28 février, il est le 1er mars et donc je suis venu hier et en fait aujourd'hui mon émission n'est pas prête. Voilà. Et Thomas d'ailleurs lui non plus n'est pas prêt, il est en train de pioncer, il s'est trompé et heureusement du sport lui il est arrivé, il s'est dit ben le dimanche il y a personne à midi donc je vais en profiter, je vais faire l'émission moi aussi. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on se retrouve par un gag de bougie du sapeur qu'on vous expliquera après. Mais ma foi, que se passe-t-il ? Les 28 février et demi. Demandons à Catherine sur une musique de Herbalizer. Serge !
Raconter que j'aimais ce qu'il faisait, que j'aimerais ses chansons. Qu'est-ce que ça peut lui foutre au fond que je fasse des chansons? Qu'est-ce que ça aurait pu lui foutre au fond que je fasse des chansons? Il est mort 3 jours après, assis au bord de son lit, en plein après-midi, complètement dénudé. Avait-il fumé les gitanes qu'il avait achetées devant mes yeux éberlués? 5 paquets dans sa main de papier froissé que j'ai vu se refermer. Je l'ai vu acheter son tout dernier paquet le 28 février 1991. Le 2 mars 1991, est-ce qu'il avait tout fumé quand il s'est envolé vers Mélodie, vers Marie-Lou, vers l'homme à la tête de chou? Est-ce qu'il avait tout fumé quand il s'est envolé comme volute vers Mélodie, vers Marie-Lou, vers l'homme à la tête de chou?
Sport qui me fait remarquer très fort judicieusement que
comme d'habitude
voilà qu'effectivement c'est extrait de The Herbalizer a en fait repris la bande son du meilleur album de Gainsbourg, L'homme à la tête de chou. Donc c'est sur un album de Herbalizer à la fin, donc il y a Catherine qui chante cette histoire et c'est sur l'album Take London. Ne pas donner le coup trop fort quand même, ça fait sauter les lecteurs CD à droite pour une fois qu'on a à gauche qui sont tout beaux tout nouveaux, mais sont un peu loin pour les starter à la main, c'est un peu chaud, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Je vais vous raconter l'histoire d'un personnage de bande dessinée, de la bande dessinée française, s'il vous plaît, de la bande dessinée historique française. C'est un truc qui est assez vieux, hein, puisque ça date des années 1920, il s'agit du sapeur Camembert. Figurez-vous que le sapeur Camembert, c'est un homme, alias François-Baptiste Ephraim Camembert, est un sapeur, c'est-à-dire un soldat du génie à Besançon. Il a une longue barbe rousse et il apparaît en 1890 dans une bande dessinée qui le fait naître le 29 février 1844 dans le village de Gleulélure, Saône supérieure. Je sais pas si à l'époque c'était un vrai ou non. Ok, il y a une insert téléphonique. Allô, oui, bonjour.
Oui, bonjour, je l'ai dit, c'est Thomas.
Tu t'es pas... Toi aussi, tu as oublié qu'aujourd'hui c'était un 29.
Non, en premier.
Sextile. T'es bon, pas arrivé, c'était... je me démerde tout seul là.
Alors c'est un cri d'angoisse que je lance en direct, puisque tu parlais de bande dessinée française. Il se trouve qu'on a enregistré en Angoulême une interview d'un gars qui est complètement fou, qui est complètement jeté, qui s'appelle Ancestral Z, et que nos amis auditeurs qui ont également la télé allumée en ce moment peuvent le retrouver chez Jean-Luc Reichmann dans Attention la marche.
C'est pas vrai,
manga. Si.
C'est pas vrai.
Il est en train de faire des dessins en direct complètement jetés aussi, et tu vois que en fait c'est le même personnage qu'on a interviewé, donc si vous voulez mettre la télé sans son, vous pouvez déjà le voir à la télé.
C'est quand même assez étonnant que ce mec-là arrive à stupéfier des mecs de Radio Éphémère qui, ou des anciens de Radio Éphémère qui tiennent absolument à l'avoir sur le plateau. C'est quand même fort. Okay.
On comprend mieux pourquoi Jean-Luc Reichmann était à Angoulême cette année.
Bah oui, et en plus, c'est un ancien de la radio, donc on va peut-être le saluer. En tout cas, on lui souhaite bonne chance parce qu'on sait Strahl Z.
Ouais, c'est pas gagné.
C'est pas gagné. Dommage, si quelqu'un pouvait l'enregistrer, c'est un peu tard. Bah voilà. Thomas, du coup, t'es pas venu. J'espère que tu vas te remettre, puisque donc c'est pour raison principalement médicale que tu peux pas venir.
Ouais, moi je suis venu samedi dernier.
Oui ? Allô ?
Moi je suis venu samedi dernier.
Oui, mais j'ai pas de canne.
Donc voilà, donc ça fait 1-0, voilà, la balle au centre, et on remettra ça pour une prochaine partie. Je crois que tu avais un film qui était prêt à être chroniqué aujourd'hui, donc tu vas en parler la semaine prochaine. Tu peux peut-être donner le programme ?
Alors oui, effectivement, alors peut-être que la semaine prochaine on n'aura pas un, mais deux, ni trois, mais quatre films à chroniquer, puisqu'il y a la sortie DVD de Pathfinder, le film sur les Vikings qui est sorti il y a quelque temps. Ouais, j'entends déjà la voix bien tatouée de du sport à côté. Et on a également le méga coffret collector de la mort de Histoire de fantômes chinois. Il ne reste plus que le troisième à voir. Voilà.
Allez, courage, c'est le plus drôle avec le Bouddha cosmique.
Le Bouddha cosmique, c'est dans le 2, je crois.
Où il est peint de peinture d'or. Oui, pardon, excuse-moi. Ouh, ça fait longtemps. Je crois que je vais te l'emprunter.
D'accord.
Remets-toi bien.
Merci
Ciao.
Beaucoup, bonne émission.
À plus. Voilà, et avant qu'il me coupe mon intro, donc tout ça pour dire donc Christophe, qui donc est le créateur du Sapeur Camembert, qui est l'un des premiers personnages de bande dessinée française et qui soit en plus vraiment rentré dans la culture populaire, et ben tous les 4 ans on lui fête son anniversaire, puisqu'il est né un 29 février, comme Debussy je crois, mais je me trompe sûrement. Et donc chaque année, il y a un journal qui paraît, s'appelle La Bougie du Sapeur. C'est un journal satirique qui, cette année pour son numéro 8, dit que il est le seul journal sans interview de Nicolas Sarkozy à l'intérieur. C'est une espèce de canard enchaîné complètement en pétage de plomb. Ils avaient fait, si je me souviens bien, pour le numéro 6 en 2000, un supplément dimanche, puisque ça tombait un dimanche. Et ils avaient fait pour ce numéro, je crois, un supplément madame. À noter donc que la bougie du sapeur normalement est accompagnée du prix du sapeur. C'est une course hippique, si je me trompe, qui se court à Vincennes normalement. Et cette année, il n'y a pas eu de prix du sapeur, puisque donc désormais les courses hippiques sont délocalisées. Et donc il se trouvait que hier il n'y avait pas de course qui était prévue en région parisienne, et j'ai regardé sur les plannings du PMU et tout ça. Non. Il n'y a pas eu de prix du sapeur. C'est dommage, ça aurait été assez rigolo, puisqu'en général, ils s'amusent à changer le nom des chevaux pour déconner, avec des noms complètement barge et strange, rien que pour s'éclater, pour le fun. Bref, le sapeur camembert, donc en fait aujourd'hui, si je calcule bien, c'est 164 ans. Sauf qu'il faut diviser par 4, donc je vous laisse faire le calcul. Et la bougie du sapeur, donc on en est au numéro 8, il est en kiosque. Il est tiré à un nombre conséquent d'exemplaires, et c'est un numéro gag, bon enfant, un peu dans la lignée du canard enchaîné, mais sans la portée franchement politique. Du sport, quelque chose avec les 29 février ou contre hein ?
Non, ça me laisse froid, quoi. Et puis bon, Le problème, c'est que la bougie du sapeur, si t'ouvres, si t'allumes ta télé, tu te mets sur les chaînes info, tu peux être sûr que le mec qui fait la bougie du sapeur est invité par absolument tous les plateaux, que ce soit sur LCI, sur iTélé, sur BFM TV, j'en passe et des meilleurs.
Oui.
J'ai essayé Sky Channel, mais bon, Sky News, il n'y est pas, c'est bizarre.
Ce qui a fait sa popularité, c'est qu'il avait des copains journalistes qui écrivaient dedans, de la grande presse, un certain Bruno Mazur, qui est le seul à ce jour à cette dévoilé, puisqu'ils écrivent tous sous pseudonyme normalement dedans, donc c'est un peu le défouloir complètement autre chose. Pour vous signaler l'agenda dédicace en bande dessinée à la librairie Gibert. Samedi prochain, ce sera donc un 8, à 14h30, il y aura Nicolas Poupon pour Le Cri de l'Autruche, le troisième tome de le troisième album de la série, qui s'appelle Le Chant du Kangourou, vient de sortir, et Frédéric Salcedo pour Ratafia, le quatrième, s'appelle Dans un coin sto bizarre, et donc c'est, vient de sortir les deux albums chez Très Étrange, Milan Édition. Et donc ils seront tous les deux en dédicace samedi 8 mars à partir de 14h30. C'est à la librairie Gibert et c'est au premier étage. Les sorties bandes dessinées à midi 16 dans le supplément week-end avec Batman, un naissant qui est véritablement une tuerie, signé Paul Pop. Ça vient de sortir dans la collection DC chez Panini Comics. Oh, allez, imaginez que l'Amérique aille un cran largement au-dessus dans sa paranoïa sécuritaire, antiterroriste, jusqu'au fascisme. Des agences officielles et polices d'État comme municipales seraient obligées de céder le pas à des milices mises en place par le président. La APC, des sortes d'unités d'intervention spéciale, en fait des brutes épaisses, carapacées comme des joueurs de football américain, sans aucune éthique, sinon le tabassage, en liaison permanente, direct by satellite, avec des cellules spéciales de Washington. L'escouade d'intervention Panthers vient d'en découdre, avec une ombre bizarre, une espèce de machin à capuche, qui s'amuse à sauter de toit en toit. Après plusieurs altercations, quelques gouttes de sang vont permettre d'identifier cet individu aux activités terroristes. Identifier un double zéro. Zéro fichier, zéro information. Une singularité. Une incongruité dans un état où tout est fiché, suivi, tracé, répertorié. Une impossibilité. Serait-ce donc le Batman de Gotham? Cette légende urbaine dont peut parler là, ces espèces de tarés là, à l'asile là, qui a pris feu. Est-ce que cela existerait à notre époque, en 2039, dans Gotham City? Le Batman de Gotham intrigue jusqu'au commissaire Gordon du GCPD, petit-fils du mythique commissaire qui était arrivé à juguler une vague criminelle sans précédent au milieu du XXe siècle. Seulement Gordon ne peut enquêter comme il le souhaite, tant que ces Panthers de l'APC lui bloquent le passage à coups de papier officiel. 10 ans après son club de la fin du siècle, sorti en France chez Bétier Édition, où il montrait des jeunes désabusés par la société, Paul Pop s'impose une fois de plus comme un auteur complet d'exception, scénariste et dessinateur, capable d'amener le graphic novel à un haut niveau tout en restant accessible. Malgré le défi, reprendre un justicier iconique dans une année future où il fêtera symboliquement son siècle, il arrive à nous estomaquer, à nous faire découvrir un Batman dans un monde totalement réinventé, puisqu'aucun super méchant, aucun détraqué notoire n'est présent, ni même de super-héros à côté. Hein. Il y a juste une allusion dans une image et puis point barre. Non, Batman est seul, accuse son âge, n'a plus les mêmes moyens qu'avant, bref, complètement en dehors de son élément. Et pourtant, son Batman étonne, impressionne, le captive littéralement, car ce Batman, aux abois, prend des allures de bête traquée dans des situations totalement incertaines, à 10 000 lieues de Bruce Wayne, au sang-froid imperturbable, au sens de la justice hypertrophié et surtout aux moyens financiers quasi illimités. Forbes Magazine a classé quand même Bruce Wayne 7e fortune fictive de personnages fictifs. « c'est quand même marrant de voir un tenant de la justice fasciste, expéditif, se retrouver victime de son propre mode d'action. Le trait extrêmement nerveux de Paul Pop, jeté, renforce le malaise de l'univers qu'il a planté. Et le scénario laisse bien peu de temps mort au lecteur pour qu'il reprenne son souffle. C'est bizarrement les mini-séries des années 1980 qui ont redéfini Batman comme une série adulte et qui ont complètement occulté le héros de l'âge d'or et le ringard de l'âge d'argent qui a juste été sauvé par une série télé. Dark Knight Returns, Killing Joke et Year One, le reboot par Frank Miller. C'est par opposition justement au Year One de Frank Miller où on voit arriver le grand-père Gordon, pas encore commissaire, et Bruce Wayne, jeune héritier en rempli d'idéal à l'innocence brisée, que se place Batman à naissant de Paul Pop. À 100 ans, eh ben, Batman aura vraiment une santé étonnante quand même pour un centenaire, pour un humain tout à fait normal finalement. Paul Pop, Batman à naissant, c'est chez DC Comics, traduit en France chez Panini. C'est assez nerveux, assez fort hein, quand même. Du sport, lui, il est tombé sous le charme du pavé.
Non, mais ce qui est assez remarquable hein, déjà, c'est que Paul Pop fait et dessin et scénario, donc ouais. C'est assez rare hein, dans le monde des comics. Et en plus,
bah, comme Frank Miller, vraiment, quand on nous l'a présenté quand il avait fait le club de la fin du siècle comme quelqu'un qui révolutionnerait le comics, comme Frank Miller, on n'en est pas loin.
Ouais, en plus la mise en case est plus traditionnelle, hein, plus elle est moins, ça se lit vachement facilement, quoi. On a un Batman qui, en fait, a une tronche pas de héros, quoi. C'est-à-dire, on s'identifiera vachement moins à ce Batman-là qu'au Batman traditionnel, hein, le menton carré.
Tu t'identifies, toi, un mec riche avec des idées de justice implacable et expéditive?
Bah, on pourrait le faire, quoi, à la limite, hein. Bah, dans le cadre d'une histoire, il n'y a pas de problème, hein. On peut bien s'identifier.
Parce que très honnêtement, c'est vrai que, bon, allez, je veux bien que le Playboy qui gaspille la fortune.
Je veux bien
qu'on s'identifie plus que cette espèce de bête traquée.
Non, parce que là, en plus, il est dessiné. Je veux dire, il est dessiné de telle manière à ce qu'on croit plus avoir un méchant en fait, hein, parce qu'il a toujours des rictus incroyables. Quand il dégomme, c'est bon, vraiment avec la rage, la haine à fond les manettes. Enfin bon, disons ok quoi. Puis bon, il y a moins la cape et tout. C'est très fort, hein, vraiment très très fort.
En tout cas, c'est vraiment 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 notre coup de cœur. C'est pas le seul. La deuxième BD aussi est pas mal. Avec un polar de très très bonne facture, Damien Marie au scénario, Wenders au dessin, Welcome to Hope. Le troisième tome de ce triptyque vient de sortir, il s'appelle Inéquation, c'est dans la collection Grand Angle chez Bambou. Enfin, ça sortira d'ici quelques jours. Oh, il est des petits coins tranquilles, des petites communautés qui vivent leur petite vie sans chichi, sans incident, où personne ne cherche à faire d'histoire et où tout est réglé comme du papier à musique. Mais derrière cette aquarelle qui ressemble plus à une nature morte, de lourds secrets se cachent forcément. Hope est une petite ville du Kansas, bourgade agricole perdue en plein dans la Corn Belt, loin de tout, et les notables font leur loi à coups de crasse, tout en maintenant un aspect parfaitement respectable pour les personnels, pour les visiteurs qui s'aventureraient dans la petite ville de Hope, un peu par hasard. À leur dépend, car de nombreux cas de disparition de voyageurs ont intrigué un agent du FBI. Et ça tomberait mal que les fédéraux fourrent leurs truffes humides maintenant, surtout alors qu'on prépare un combat de chiens illégaux qui permettra de lever quelques mises conséquentes. Ça, c'était l'introduction dans le premier tome. On en est au troisième, au petit matin après le combat. Et Cody, le jeune loser qui s'est fait flouer par le banquier, le patron du bar et le shérif, décide de régler ses comptes et braque la banque. Juste au moment où Scott, voyageur de passage spécialisé dans le plumage par poker, a décidé de se refaire en faisant sauter la banque, mais pas à coup de carte. Une canicule était annoncée pour aujourd'hui. Elle sera l'occasion de retourner tout le fond vaseux de la vie locale. Et on ne se méfie jamais assez de l'eau qui dort, même chez les pécores. De la baston, du cul, des meurtres, de la trahison et des situations inextricablement compliquées que finalement on peut résoudre qu'à coup de fusil à pompe. Un excellent polar, très très bien mené. L'ambiance redneck et les années 80 sont plutôt bien retrouvées, bien menées, grâce à un usage relativement parcimonieux des clichés qui permettent au lecteur de s'immerger au plus vite dans la gadoue. Remarquez que le triptyque a été adapté en roman par le scénariste. Et les deux se lisent en parallèle avec délectation. À vrai dire, je n'avais pas lu les deux premiers tomes. J'ai lu la BD, donc j'ai lu la fin. Et ensuite, je me suis fait les romans. Et ça passe parfaitement. C'est très bien écrit. Le roman se vaut lui aussi. Il est disponible dans une collection poche plutôt légère. Et je suppose qu'il va être offert avec le tome 3. Donc, est disponible toujours chez Grand Angle Bambou. Donc, écrit par le scénariste Damien Marie et qui montre quand même qu'il sait bien foutre les situations. C'est un petit bonheur, c'est pas trop mal. Damien Marie au scénario, Wenders au dessin, Welcome to Hope, le troisième tome qui clôt ce cycle s'appelle Inéquation. Ça vient de sortir dans la collection Grand Angle chez Bambou. En plus, le poche a la couleur favorite de Dusport avec la petite touche jaune qui va avec, donc ça tombe très bien. Allons-y avec The Wolfgang Press. Telling me that life is a gas.
your misconception is a pitiful expression of something I'll never possess. So I'm moving south to the great unknown. Yeah, I'm moving south where the head on low.
Wolfgang Press, Going Far, extrait de l'album Funky Little Demons de 91, si je me souviens bien. Et la régie pub qui murmure dans les oreilles, 12h31 minutes et 16 secondes sur la poubelle de radio.
Semaine spéciale, élection municipale de Toulouse. Radio Éphémère, radio libre et citoyenne reçoit en direct tous les candidats à l'élection municipale de Toulouse du lundi 3 mars au vendredi 7 mars. Les 8 candidats se succéderont toute la semaine au micro de Radio Éphémère pour exposer leur programme. Lundi 3 mars, 12h30-13h, Jean-Luc Moudenc. Liste Toulouse pour tous, UMP. Mardi 4 mars, 12h-12h30, Pierre Cohen, Toulouse, Rassemblée, PS, PRG, PCF, Vert. 12h30-13h, Myriam Martin, pour la liste Debout, LCR, Motivé, Appel unitaire antilibéral. Mercredi 5 mars, 12h-12h30, Sandra Toremocha pour Lutte ouvrière. 12h30-13h, François Simon pour l'autre liste. Jeudi 6 mars, 12h-12h30, Jean-Luc Forger pour la liste Toulouse autrement Modem. 12h30-13h, André Gallego pour la liste 100% pour Toulouse. Enfin, vendredi 7 mars, 12h-12h30, Thierry Dupin pour le Parti ouvrier.
Du sport.
Oui.
Assez de parler de politique.
Oui.
Parlons de choses qui intéressent les Français.
Oui, des choses futiles.
Non, de choses primordiales.
Allez,
là, tu sais que dans un continent un peu plus au sud que le nôtre, quand même, le sport là-bas arrive même à calmer les guerres civiles.
À moins que ce soit le contraire.
Oui, exact.
Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au Cameroun. Hein. Ils n'ont pas digéré la défaite face à l'Égypte. Bon, elle est pas bonne, d'accord. Ok. Tout d'abord une bonne revue de presse quand même. pour commencer, tu as certainement, tu n'as pas pu y échapper, vous n'avez pas pu y échapper, c'est impossible, à moins que vous soyez parti en retraite pendant les trois dernières semaines, je ne sais pas, moi, au fin fond de l'Ariège, chez les moines, ou non, pas du tout, pas du tout. Mais vous avez certainement vu, repéré, quand vous, chaque fois que vous rentriez dans un kiosque à journée, que vous regardez la télé, vous avez pu voir l'apparition de ce nouveau mensuel.
Et c'est quoi la musique qui assure la pub?
Je sais pas, j'ai vu la pub à la télé qu'une seule fois, j'ai pas eu le temps de, mais effectivement.
Je crois que c'est Prefab Scout, mais je suis pas sûr.
Ça me dit quelque chose, mais bon.
Oh, merde.
Bon, c'est pas grave, de toute façon. Donc, alors, il faut savoir.
Le magazine de l'homme idéal.
Le magazine de l'homme. Alors, attends. Masculin, beau et intelligent. C'est GQ, comme on dit chez nos amis Grand Britain. Autrement dit, Gentleman's Quarterly. Alors, c'est un mensuel, et pourtant, quarterly en pendant... Angleterre,
c'est ça paraît trimestriel. Tous les 4 mois.
Trimestriel, 4 fois dans l'année. Trimestriel. C'est ça, attention, c'est
merde.
Faux ami. Ah ouais.
Oh merde. Ouais. Fouetté.
Et pourtant c'était un c'est passé très très vite à mensuel. C'est un magazine qui a été créé il y a un peu plus de 50 ans hein, en 1957 et qui fait partie du groupe Condé Nast qui possède aux USA Vanity Fair, Vogue, le New Yorker, Glamour, Wired, etc. J'en passe et des meilleurs, je vous cite les titres qui sont également présents ici en France. Alors déjà, quand tu vois la pile des trucs et que tu vois l'épaisseur du magazine, tu te dis putain, wow, cool. En plus, bon bah, il est vendu à prix promotionnel 1€, hein. C'est pour ça que je l'ai acheté, sinon je l'aurais pas pris. Au lieu de 3,40€, bon, il faut dire que si tu regardes l'épaisseur entre GQ et l'épaisseur de SoFoot, le prix est le même, hein, vu que SoFoot est passé à 3,50€. Mais la première des choses, c'est que quand on ouvre GQ, on a du mal à arriver au rédactionnel tant il y a de pubs. Alors là, c'est déjà là que le bas blesse.
C'est pour ça qu'il était à 100€.
Hein, non, mais là, c'est énorme. Là, c'est énorme. Hein, je veux dire, il faut chercher le rédactionnel. Je crois que j'ai pas fait le compte exact.
T'as le choix.
Je me suis pas
fait
chier.
T'as le droit pour distribuer par les NMPP, puisque c'est distribué par les NMPP, c'est 8 pages minimum de rédactionnel.
Ouais, bah là,
s'ils ont leurs 8 pages.
Là, ils y sont de toute façon. Mais enfin, bon, il faut dire que. Au total, mais je crois qu'il compte que les pages. Il y a presque 300, plus de 300 pages, hein. Donc c'est quand même énorme pour un mensuel. Hein, quand on sait que les gens lisent très très peu, hein, survolent plutôt quoi.
Ouais.
Et là, bon, bah ok, ils vont être ravis de toute façon parce que bon, il y a beaucoup de pubs. Et alors là, bon, bah les pubs. Alors t'as tous les. Tu sais, pour arriver au sommaire, hein, il faut déjà passer au moins une vingtaine de pages de pubs, quoi. Tu vois, rien que pour arriver au sommaire. Hein. Ok, ça, attention, c'est les pubs au gars.
Tu cherches au début les pubs, hein, c'est la meilleure position possible.
Ouais, non, mais attention, c'est pubs au gamme hein, quand même, hein, avec, tu sais, Ashton Kutcher, enfin bon, t'as toute la. Attention, quand même. Alors, c'est le magazine qui parle aux hommes sur un autre ton. D'accord, on est d'accord. Alors, le contenu rédactionnel, hein, s'entend pas les pubs, là, je viens d'en parler. Alors, déjà, première partie, comme d'habitude, qui est plus ou moins magazine, buzz, alors avec, bien sûr, toutes les déclinaisons ciné, série, musique, livre, et alors là, grosse surprise, parce que je l'avais en main, justement, et je l'avais chez moi, eh bien, on parle du journal de Serge Clair. Ah ouais, avec une bonne...
Pour un lancement de journal, qui veut s'imposer culturellement, fallait forcément un clin d'œil aux un métal hurlant.
Ouais, mais ça se comprend un peu mieux quand on sait qui écrit dans le GQ.
Copinage. Hein,
ça se comprend un petit peu mieux. Il y a également une bonne page sur l'écrivain Chuck Palahniuk, c'est-à-dire le mec qui nous avait Fight Club, le club de la couille et d'autres bouquins du même acabit. Enfin bon, on parle également d'internet, des jeux vidéo. Enfin bref, toutes les occupations indispensables de l'homme moderne, bien entendu. La deuxième partie, c'est une partie qui s'appelle Salon, avec rubrique sexe, conso, travail. Là, il y a plus de rédactionnel.
C'est un rapport avec le site web Salon ?
Non, je crois pas du tout. Mmh. Il me semble pas. On parle de DVD, on parle de football. Alors bon, bah au niveau des chroniqueurs justement, eh bien on a ratissé très large hein, du côté de GQ, et on a ratissé du côté de ce qui marche. Et c'est-à-dire qu'on retrouve au niveau des signateurs, au niveau des collaborateurs de ce journal, David Abiker par exemple hein, qu'on avait vu sur Arrêt sur Image l'émission. On y retrouve également pour la rubrique foot Grégory Schneider qui lui, eh bien spécialiste du foot dans Libé. On y retrouve également Marc Bauger qui est chroniqueur à France Football et à Technique Art.
D'autres de Technique Art,
il y en a un ou deux de SoFoot. On prend quand même des plumes assez intéressantes. Un petit article dans la revue Salon qui est vachement rigolo, hein, qui est d'ailleurs l'œuvre du correspondant américain de GQ, mais qui est pour l'instant à Paris. Et,
attends, mais ils sont en train de piller quand même Technique Art, si je
pas du tout. Non, ça n'a rien à voir, hein, quand même. Hein, c'est quand même plus généraliste, on va dire, hein, et plus ciblé l'homme en général. Là, mais l'homme qui a du pognon un peu quand même, tu vois quoi. Et ce qui est assez rigolo, c'est un petit article assez rigolo, quoi, de ce type-là. J'ai pas retenu son nom, quoi, mais qui nous parle de la traduction des titres de films. Et bon, il est vrai que ça marche dans les deux sens en fait, quoi. Mais bon, bah c'est assez rigolo parce que bon, bah il est vrai que Deer Hunter, le titre original du film, qui devient c'est quoi le fameux film avec De Niro qui sont de retour de la guerre au Vietnam avec tu sais Voyage au bout de l'enfer,
oui.
Voilà, qui est la traduction française de Deer Hunter. Et il prend ça dans l'autre sens, parce qu'il faut savoir que par exemple le film de Benoît Poulvord, le premier C'est arrivé près de chez vous, est traduit en anglais Man Bites Dog, donc qui n'a rien à voir, l'homme mord le chien, enfin un truc qui n'a rien à voir, quoi. Et bon, bah il s'amuse avec ça, l'article est assez intéressant. Les articles généralement sont assez intéressants, hein, de toute façon. La deuxième, la grosse partie, c'est-à-dire les gros articles qui font plus d'une page ou plus d'une demi-page, eh bien ça commence par une interview de 8 pages de Bec Bédé. Bec Bédé, bien sûr, il fallait qu'il en soit, hein. Ça c'est tout à fait
évident. Oui, je suis le plus beau.
Et Bec Bédé qui interviewe Jean-François Bayrou. Ouais. Où il se raconte que
mais
bon,
Bec Bédé, il est communiste.
Mais là, il se raconte et ils sont tous les deux du même coin, tu vois. La famille Bec Bédé, c'est du côté de Pau, du Béarn. C'est des Béarnais, quoi. Donc ils s'en amusent un petit peu. Une troisième partie style. Alors là, bien sûr, style, bien sûr, avec les accessoires. Il y a un article spécial sur le retour de la moustache. Il y a les parfums, bien entendu. Et une saga qui est très intéressante, c'est l'histoire de Fred Perry. Hein, alors donc, bien sûr, pub déguisée, parce que bon, bah, ils ont quand même réussi à intégrer juste avant la saga de Bec Bédé un truc sur Lacoste, c'est-à-dire le gros concurrent de Fred Perry, et une saga très intéressante, hein, sur ce mec qui était un tennisman, hein, qui anglais, et qui a créé sa ligne de vêtements et tout, qu'on connaît surtout pour avoir été porté dans les années 60 et 70 par les Mods, puis dans les années 80 par les Hooligans, qui sont devenus un petit peu fascistes, on va dire. Un article sur Vincent Cassel, 4 pages donc, par Laurent Rigoulet, donc
on sait, ça on voit.
Avec des photos de David Bailey, s'il vous plaît, monsieur. Ensuite, un gros pavé de 8 pages sur Mesrine, puisque bon, bah, le film Mesrine va sortir en la fin de l'année, me semble-t-il, par Denis Robert. Alors là, bon, bah, ok, hein, on est d'accord. Et là, l'article, tout l'article, hein, qui fait 8 pages de Denis Robert sur Mesrine, est vraiment très très bien, parce que Denis Robert est on doit avoir le même âge, donc ok, on a grandi un petit peu avec cette mythologie de Mesrine et tout, on a vu Mesrine se fait descendre par le commissaire Broussard et tout, enfin bon, ça fait partie de notre jeunesse, hein. Certains ont pu s'identifier à Mesrine au travers, ont lu son livre L'instinct de mort et tout ça, ont pu s'identifier et tout. Et ce que dit Denis Robert, moi, ça me plaît vachement, de toute façon, quoi. Il démythifie un petit peu, quoi. Il dit bon, bah ok, j'étais dedans, pas de problème, comme tout le monde, mais bon, ok, c'était quand même un gros enculé, ce mec, qui battait sa femme et tout, enfin bon, qui a fait plein de trucs peu recommandables. Mais c'est vraiment très très bien. Un article sur les talibans en Afghanistan. Alors là, c'est assez rigolo, parce que quand tu vois les photos, tu te dis que les mecs, ils ont posé, c'est carrément presque des photos de mode, tu vois, quoi. Ouais, tellement les photos sont magnifiques, hein.
Ouais, surtout que, non, c'est vraiment, surtout qu'ils sont tout clean.
Ouais, non, tout clean, nickel et tout, mais l'article aussi, assez complet. Quand même, d'autres articles tels que Fenêtre Secours, les bourses internationales. Alors ça, c'est rigolo, des photos sur les différentes bourses internationales. Il y a même la bourse de Katmandou. Alors bon, c'est un truc tout pourri. Et ils vont installer le numérique. Pour l'instant, ils marquent encore les trucs à la craie, tu sais, comme les bourses dans le temps, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, les rubriques habituelles, conso, sexe. Alors là, une rubrique sur le sexe, c'est comment pratiquer l'éco-sexe. hein, en étant écologique, voyage, bouffe politique. Alors l'article sur la politique, c'est assez rigolo parce que c'est un article sur les hommes politiques qui se tapent des femmes politiques. Alors bon, bah, les exemples commencent à être hyper nombreux hein, maintenant. Le truc sexe, bah, c'est écrit par Nicolas Santolaria, par ailleurs chroniqueur télé dans Technicart. Et sur la fin, un petit portfolio de Jean Lucif, l'excellent photographe un peu érotonomane qui nous a quitté à la fin des années 90 et qui fait toujours dans la photo, on va dire, hein, très remontante, ok. Et il y a aussi, je passe quelques articles, hein, il y a aussi tout à la fin, un truc qui s'appelle Sport Légende, et alors là, c'est le truc qui tue quand même, parce que c'est le fameux duel entre Franz Beckenbauer et Johan Cruyff, Johan Cruyff étant le meilleur footballeur de tous les temps, comme tout le monde le sait. Voilà, ça c'est dans GQ. Alors bon, achetez-le tant qu'il coûte 1 euro pour y jeter un coup d'œil, parce que c'est quand même bien écrit, il faut dire ce qui est. Mais par contre, 3,50, s'il y a autant de pubs, laisse tomber, quoi. Ça prend beaucoup de place. Hein.
Ouais, parce que ça fait épais quand même. Hein.
Ouais, ça fait épais, hein, c'est lourd, hein, y a pas de problème. Quoi.
Encore la revue de presse. Hein.
Encore la revue de presse, mais elle est pour le football. Alors tout d'abord, le cahier de football nouveau est arrivé, celui de février-mars, numéro 41, avec Domenech. Pardon, en couverture.
J'aime beaucoup la pub en quatrième de couve, elle est pas mal. Ceci n'est pas une publicité comparative.
Ah non, mais ils font quand même de la pub à Pierre Ménès. Alors bon, c'est quand même vachement sympa, quoi, tu vois, quoi. Parce que bon, Ménès a déjà dit du mal des cahiers de football, ensuite il a dit du bien et tout. Parce que Ménès n'est pas aussi con que Denis Balbir, qui a quand même intenté un procès au cahier du journal
du football. Oui.
Il réclame 50 000 euros de dommages et intérêts
pour avoir dit qu'il c'était un que c'était un nul.
Non, pour avoir été traité par sac de fiel de singe hurleur.
Ah alors, oui, quand, je m'en souviens.
Quand,
oui.
quand on lit hein, justement l'article de sac de fiel dans chaque numéro de cahier de football, on sait très bien qu'il faut prendre les choses au second voire au troisième degré, ce que Denis Balbir n'a manifestement pas fait, et bon bah c'est un petit peu dommage pour un journaliste soi-disant professionnel dont la profession est un petit peu de lire quand même, un minimum, hein. Enfin bon, c'est vrai qu'il fait de la télé, alors bon, il n'y a pas besoin de lire. Alors, les cahiers du football, c'est à noter quand même, hein, l'interview de Domenech est énorme, hein, elle fait 3-4 pages, et ils ont quand même réussi à le gauler, alors que bon, a priori, les cahiers du football, c'est un petit magazine de rien du tout, décrié par beaucoup dans le monde du football, parce qu'il tape pratiquement sur tout ce qui bouge. Hein,
oui, mais d'un autre côté,
très critique.
D'un autre côté, je crois qu'il y a une tendance actuellement dans le milieu professionnel du football à se démarquer justement de l'intelligence artificielle, de la Ligue nationale et tout ça. Hein. Justement, la Ligue du football amène énormément et se fout aussi en termes de fraîcheur.
Ouais, il y a aussi.
Ça pourrait même presque rappeler que le football, avant d'être un spectacle particulièrement nul, est aussi un sport.
Ouais, au départ, ouais. Alors, il y a toujours les articles très rigolos et tout. Comment prénommer son footballeur et tout, avec les probabilités. Alors, Zinedine, Nicolas, Grégory, Jérémy, Olivier. Enfin, bon, ils arrivent à faire des équipes types avec que des mecs qui se prénomment Jérémy ou Olivier.
Ouais, parce que Zinedine, ça va être dur.
Ouais, ça va être un peu dur, hein, quand même. L'autoportrait craché, c'est-à-dire on en fout plein la gueule. Ça, c'est Guy Carlier qui en prend plein la gueule. C'est ce mois-ci. Puis bon, toujours les rubriques habituelles avec le Magé Dream Team. Là, ce mois-ci, c'est léger rondin de boulot contre le Servette de Genève. C'est-à-dire des noms d'arbres contre des noms de fleurs. Avec Cristiano Ronaldo Dindron, Michel Platane, Petr Cèdre dans les buts, l'entraîneur c'est Guy Hou, bien entendu. j'en passe. Bon, d'accord. Donc tout ça c'est dans le numéro de 41 des cahiers du football. Le SoFoot de ce mois-ci vient de sortir, hein, il est sorti hier, hein, bah c'est normal, hein, c'est début mars, avec Thierry Henry en couverture, et le gros titre c'est Euro 08, le problème Henry, donc article vachement polémique sur le rôle d'Henry dans l'équipe de France, le mec indébolunable, enfin bon, ok, ils vont pas se faire des potes avec, ils vont pas être potes avec Henry, il déclare d'ailleurs, avec Henry c'est simple, avec lui ou contre lui, quoi, il n'y a pas 36 solutions. d'autres articles, un article sur Rio Ferdinand, sur Franck Dumas, sur Enzo Schifo. On se demandait ce qu'il foutait, ce mec, qu'est-ce qu'il était devenu, un des joueurs les plus élégants du championnat de France quand il jouait à Auxerre puis à Monaco. Il est entraîneur, quoi. Les reportages sur les clubs de foot improbables, Nueva, Chicago, un club de foot de Buenos Aires qui est vraiment pas piqué des hannetons. Et surtout avec les rubriques du début, alors il y a le match de foot, l'équipe de rêve, enfin non, c'est pas l'équipe, chaque mois ils essaient de faire une équipe par rapport à un thème, et là c'est l'équipe Les Mecs de Carla.
Je l'ai vu.
Alors là, bon, ok, c'est Florent Pagny dans les buts. En ligne arrière, on a Nico, on a Arnaud Klarsfeld, Charles Berling, Louis Bertignac. Milieu de terrain, Laurent Fabius, Jean-Paul et Raphaël Enthoven, les deux, hein, les deux. Oui. Hein, Jean-Jacques Goldman et Mick Jagger en avant-centre. Ah bah ouais, Mick Jagger, normal.
Et combien de fois marié?
Et ça il le marque pas, hein, de toute façon, quoi. Et comme coach, eh bien c'est carrément Eric Clapton, hein, dans cette équipe des Mecs de Carla. Un article vachement bien sur Jérémy Toulalan également. Il y en a beaucoup d'autres, hein, de toute façon, quoi. Enfin bon, c'est dans le SoFoot de ce mois-ci. Et toujours la rubrique préférée de Thomas, hein, à savoir l'UVU et détendu, avec toujours les charmantes Vélines et les copines, les femmes de footballeurs, légèrement dévêtues comme il se doit, bien entendu.
Et pas comme dans la série télé. Des fois, on tombe des trucs sur le net. Ça part d'une petite phrase, malheureusement, échappée comme ça, sur le ton de la conversation badine et citadine au salon de l'agriculture. Et il y en a qui en font un rap. Moi, j'aime du sport, n'aime pas. C'est produit par un groupe qui s'appelle et qui se cache sous le pseudonyme de Touche-moi pas, tu vas me salir. Sachant que moi, ça me fait de suite penser à un vrai groupe musical et ça s'appelle bien évidemment Casse-toi, pauvre con.
Si t'égorges des moutons dans ta baignoire, casse-toi pauvre con. Si t'es en papier et noir, casse-toi pauvre con. Si t'es pas un bon chrétien, casse-toi pauvre con. Si t'aimes pas les Américains, casse-toi pauvre con. T'es pas de la France qui se lève tôt, casse-toi pauvre con. J'ai signé, lâche-moi ton stylo ou bien, casse-toi pauvre con. Ton prénom se finit pas en A, casse-toi pauvre con. Si tu m'as dit touche-moi pas, casse-toi pauvre con. Ouais, casse-toi pauvre con. Si tu veux même pas me saisir la main, alors que je mérite une ovation. T'as 10 ans, tu parraines pas de mort, casse-toi pauvre con. Ta Rolex elle est pas en or, casse-toi pauvre con. Si tu touches le RMI, casse-toi pauvre con. Si Kadhafi n'est pas ton ami, casse-toi pauvre con. Si t'as pas libéré d'otage, casse-toi pauvre con. Ton fils a pas le nom d'un fromage, casse-toi pauvre con. Tu veux te faire élire à Neuilly, casse-toi pauvre con. Mais t'es même pas de ma famille, qu'est-ce que tu fais sérieux? Casse-toi pauvre con. Si tu veux même pas me saisir la main, alors que je mérite une ovation. J'aime. Casse-toi, pauvre con. Vas-y, vrai, si je te plais pas, fais donc comme Cécilia et Martinon. Casse-toi, t'es plus gentil ou pas la basse. Casse-toi, pauvre con. Que jet privé ou pas masse. Casse-toi, pauvre con. T'as pas des entrées chez Maxi. Casse-toi, pauvre con. Quand tu marches, ça fait pas bling bling. Casse-toi, pauvre con. T'es plus grand que moi, t'as le net. Casse-toi, pauvre con. Rien d'acchef, t'en fais qu'à ta tête. Casse-toi, pauvre con. T'es moins discret que François Fillon. Casse-toi, pauvre con. Et tes problèmes aux informations. Casse-toi, pauvre con. Casse-toi, pauvre con. Avance du jour où tu la quittes, hein. Si tu veux même pas me saisir la main, alors que je mérite une ovation. Casse-toi, pauvre con. Avance du jour où tu la quittes, hein. Vas-y, vrai, si je te plais pas, fais donc comme Cécilia et Martinon. Casse-toi, pauvre con. Avance du jour où tu la quittes, hein. Si tu veux même pas me saisir la main, alors que je mérite une ovation.
Allez, un petit whisky.
Ouais, ouais, on va.
Avec modération.
Ouais, on va prendre un petit peu sur sur l'émission, l'excellente émission qui parle de livres le mercredi sur Radio Éphémère.
J'en ai marre que tu fasses la pub pour la concurrence. Toi.
Fahrenheit 891. et on va parler un petit peu de bouquins. Alors moi, c'est plus les polars. Hein, ça, tu le savais déjà depuis pas mal de temps. Et là, bon, bah ok. Bon, j'achète pratiquement jamais de bouquins neufs. Hein, je préfère les prendre d'occasion et tout. Et donc, je suis tombé sur ce bouquin, à pas cher du tout, hein, de John Wessel, qui s'appelle W-E-2-S-E-L, hein, pour qu'il n'y ait pas de jeu de mots un petit peu rigolo, qui s'appelle Kiss It Goodbye. Bon, j'ai pas eu de cul, parce qu'en fait, c'est le troisième d'une série, hein, bon, ce sont des histoires indépendantes, et l'histoire m'a vachement rappelé une autre histoire de couple de détectives, enfin couple, un couple dont l'un d'eux est détective, un petit peu comme Dennis Lehane, hein, avec Mackenzie et Gennaro, dans ses 5 ou 6 bouquins consacrés à Mackenzie et Gennaro, puisque après il a écrit d'autres bouquins, il a écrit Mystic River qui n'a rien à voir, il a écrit Shutter Island, encore un autre dont je me souviens pas le titre après Shutter Island, qui sont des bouquins à part, hein, qui ne sont font pas partie de la mythologie Gennaro. Et là, John Wessel, lui, ben c'est pareil, hein, c'est l'histoire d'un type qui n'est pas détective privé parce qu'il sort de tôle, donc il n'a pas le droit d'avoir sa licence de détective privé, et de sa copine qui est en fait qui possède un magasin de une salle de remise en forme, on va dire, hein, qui fait de la muscu, du fitness, enfin toutes ces choses là et bien entendu ils vont se retrouver être plongés dans une aventure un petit peu abracadabrante après qu'au début de l'histoire, eh bien un flic un peu copain du héros, eh bien, lui ramène une carte de visite qui lui appartient, ben qui a été retrouvée sur le corps d'une nana qui a été un petit peu découpée en morceaux.
Ah merde, c'est con.
Ouais, c'est un peu con. Et il s'avère que cette nana, eh ben c'était une ancienne copine de la copine du héros. Et donc enquête et tout cela. Alors le bouquin au niveau du rythme part très doucement, on se dit bon, c'est un peu chiant, bon, quand est-ce que ça va commencer à péter, quand est-ce que ça va commencer à bouger et tout, et bon bah ça se développe agréablement, on va dire, se lit assez facilement, hein, malgré les 340 pages. Le bouquin est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il est sorti en 2002 ou en 2003.
Chez quel éditeur,
hein, Rivage Thriller.
Ok.
Hein, c'est vraiment très très intéressant. Moi, ça me botte bien, ça me va bien. Ça se lit vraiment à l'aise et tout. C'est le polar de vacances, hein, sans problème. Alors c'est John Wessel. Il en a sorti 2 autres, donc avec les mêmes héros, qui s'appellent Le Point Limite, le premier, et le deuxième Pretty Ballerina. Et ça, c'est le troisième, donc Kiss It Goodbye. De John Wessel, sorti en 2002, hein, dans l'édition originale, et en 2005 donc pour l'édition française, mais c'est vraiment, ça se lit vraiment très très bien, il y a pas de problème. Pour ceux qui n'aiment pas trop les polars un peu trop fouillés, ou qui ont l'impression de pas pouvoir rentrer dans un polar parce que bon bah c'est un petit peu trop étanché, c'est le genre de bouquin qu'il faut, parce que bon on rentre dedans assez facilement et tout, c'est bien. Alors à présent, toujours chez Rivage Thriller, un bouquin qui est également sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est la même année, hein, en plus, non, 2005, donc hein, il y a 2 ans, qui s'appelle Monsieur Gros Bidon. Alors déjà, rien que le titre, on se dit, bon, ok, on sait pas dans quoi on met les pieds, écrit par Samuel Hornitz. Le titre original, c'est Hunch, Punch and Jowl, hein, qui sont des expressions américaines du début du siècle, et pour cause, vu que ce livre est paru dans sa version originale en 1923. En 1923. Alors, parlons un petit peu de l'auteur. L'auteur, c'est Samuel Hornitz, hein, qui donc a publié ce bouquin, qui était au départ en l'autobiographie anonyme, parce qu'il n'a pas sorti le bouquin en 1923 sous le nom Samuel Hornitz, l'autobiographie anonyme d'un juge qui avait relaté les turpitudes de son passé avant de mourir. Alors, le but du livre, c'était de choquer les esprits à l'époque, hein, et c'est vraiment ce qui s'est produit. Parce que le bouquin s'est quand même vendu à 100 000 exemplaires, hein, mais par contre, eh bien,
très très joli score pour l'époque. Hein.
Toute la diaspora juive, les rabbins, les organisations, eh bien, se sont mis à le dénoncer, ce bouquin, parce qu'en fait, ça raconte l'histoire de Meyer Hirsch,
Et ça, qui est né avant le début du siècle dernier, hein, c'est-à-dire qui est né dans les années 1880-1885, mais qui est né à New York, hein, vu que ses parents juifs russes avaient émigré lors de la première vague d'immigration. De l'autre côté de l'Atlantique et qui va grandir tout d'abord bien comme tout petit bébé juif, tout enfant juif en fréquentant l'école
de la rue.
L'école
rabbinique
talmudique, puis l'école de la rue avec ses copains et tout en faisant quelques petits coucou fourrés, mais justement en gardant toujours un petit pécule histoire de faire ses études de droit et de devenir juge, de devenir avocat. Et pourquoi? Tout simplement parce que il raisonne de façon très très simple. Il se dit ok, pour en foutre un maximum de côté, il faut savoir où se trouve le pouvoir, où se trouve le droit, et donc il faut arriver à avoir la main ou le pied un petit peu partout dans tous les domaines. Ça nous raconte l'histoire de ce type-là qui passait son enfance un petit peu chaotique et un petit peu, on va dire, délictueuse, et bien se met de bon côté de la loi, mais à l'époque, dans les années 1910, période à laquelle est situé le bouquin, eh bien, quand il devient juge, plus ou moins respecté et tout, eh bien, ça nous raconte en fait l'histoire du creuset qu'a été New York et par extension de l'Amérique, hein, à travers les différentes nationalités qui arrivaient, les différents immigrants, les juifs, il y a les Irlandais, les Italiens, on fait partie d'une vague qui est arrivée un petit peu plus tard, hein, qui ont donné la mafia et tout ça, mais qui sont arrivés un peu plus tard, donc sont un petit peu présents, mais historiquement, sont pas encore en position de force, hein, comme on a pu le voir, le vérifier par la suite dans les décennies qui ont suivi.
Oui, parce que c'était encore la mafia italienne à l'époque aux États-Unis, c'était juste des tout petits gangs de rue, soit à New York, soit à Chicago, c'était vraiment minimaliste à l'époque. Hein.
Alors, pour en revenir à ce bouquin, ce qui est très intéressant, hein, c'est que il y a une critique sociale qui est vraiment véhémente, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, des pages entières, hein, qui nous parlent par la bouche du protagoniste. Le bouquin est écrit à la première personne, hein, donc ça facilite pas mal de choses. Au niveau de l'écriture, c'est assez mal écrit. Hein, il n'y a pas de structure. On dirait que c'est du premier jet comme ça. Les chapitres sont assez mal coupés, il n'y a pas de continuité, on va dire, dans l'histoire. Si la seule continuité, c'est Meyer Hirsch qui est tout petit, qui commence à grandir et qui arrive à l'apogée, on va dire, hein, de sa carrière. Mais au niveau littéraire, hein, c'est pas terrible du tout. Il y a même des fautes énormes, hein, des malgré que, en veux-tu, en voilà, des erreurs d'accordance de verbes, enfin des petits trucs comme ça. Mais bon, vu le contenu du livre, on se dit que ça passe tout à fait, il n'y a pas de problème, hein, parce que c'est vraiment pour la diaspora juive à l'époque, ça a pu paraître comme étant une attaque en règle de ce qu'était cette diaspora juive, comment elle a réussi à se développer, parce que en fait, on nous raconte que ce que les gens de l'extérieur, les goïs, croient être une communauté unie et tout ça. En fait, ce sont des gens qui sont aussi racistes les uns que les autres, qui se détestent aussi les uns que les autres selon la provenance. On sait que, par exemple, au début du siècle et tout dernier, ce sont les juifs allemands qui tenaient les rênes et qu'ils n'hésitaient pas à exploiter les autres juifs, à savoir ceux qui venaient de Pologne, ceux qui venaient de Russie, les considéraient comme plus bas que terre. Que dire en plus des juifs qui venaient d'Espagne, qui ont été chassés par l'Inquisition, qui sont allés dans les Balkans, enfin bon, ça nous raconte légèrement, brièvement, pas aussi bien que dans Le Roi des Juifs, par exemple, de Nick Tosh, l'histoire, hein, justement, quoi, des juifs,
de cette immigration là, justement,
différentes immigrations, là dans le cas qui nous qui concerne monsieur Gourbidon, c'est l'immigration qui est uniquement à New York, mais ça déborde un petit peu, un tout petit peu, hein, on va dire, avec des petits apartés, mais c'est un truc qui est terrible, parce que ça raconte en même temps, outre l'histoire de Meyer Hirsch, l'histoire de ses copains qui ont choisi des voies un petit peu différentes, hein, deux de ses copains qui deviennent médecins, un de ses copains qui devient, on va dire, agitateur social, c'est-à-dire qui devient socialiste et tout. Alors les trucs sur les socialistes, c'est énorme, hein. Les trucs sur les démocrates, sur le gros scandale de Tamamiole, hein, c'est-à-dire des démocrates qui étaient corrompus jusqu'à la moelle, hein, la tête de New York jusque dans les années 20-30. Hein, c'était les démocrates qui tenaient. Et c'est pour ça que bon, bah, on leur en a voulu beaucoup aux démocrates pour cette histoire-là. Hein, parce que bon, bah, New York est une ville complètement corrompue. Et ça nous raconte justement quoi, comment, eh bien, au début du siècle, eh bien, on arrivait plus ou moins, quand on n'était pas trop bête, eh bien, à se faire son chemin, sans éducation, sans rien, mais avec un petit peu de jugeote. C'est une bombe, il n'y a rien à dire. Hein, c'est un bouquin ethnologique, on pourrait dire, à la limite. Hein, tant il y a des petits détails comme ça de la vie de tous les jours et tout. Et aussi, ça nous raconte quelle était la vie à New York à l'époque, hein, de ces immigrants. Donc, Monsieur Grosbidon, alors là, c'est terrible. Alors, Samuel Hornitz, il est connu parce que à la suite de ce livre, bon, au départ, il voulait pas être connu. Il a été, il s'est fait connaître, donc il est donc comme tout écrivain un petit peu renommé qui se respecte, parti à Hollywood. Il a participé à quelques films dans les années 30. Il a une formation de travailleur social. Lui, il n'était pas comme Meyer Hirsch, c'est-à-dire que son enfance à lui a été plus ou moins aisée. Il n'a pas connu la rue, n'a pas été obligé de partager sa soupe avec son oncle, comme c'est décrit dans le bouquin pour Meyer Hirsch. Il a fait son boulot de travailleur social, il est parti, il a fondé avec d'autres juifs la Ligue américaine contre le nazisme, ce qui lui avait valu après la guerre d'ailleurs d'être cité et de faire partie de la liste des 10, les 10 d'Hollywood, tu sais, dont les plus célèbres sont Dalton Trumbo, hein, qui ont été jugés pour activité anti-américaine en 47, oui, par la commission McCarthy. Et Samuel Hornitz a fait un an de trou pour cette histoire-là. Après-guerre, donc, alors que bon, bah, hein, franchement, quoi, il mériterait plutôt des médailles, quoi, ce mec-là, quoi. Et il a écrit encore un bouquin un petit peu plus tard, dans les années 50, quand il est revenu, quand il a été libéré. Il s'appelle Le Retour du Sabbat. Y a rien à dire, hein, je peux rien rajouter. Monsieur Grosbidon de Samuel Hornitz, Rivage Thriller, ce n'est pas du tout un polar, pas du tout, hein, y a pas d'enquête policière, que dalle et tout. C'est l'histoire d'une vie, la vie de Monsieur Grosbidon, alias Meyer Hirsch. C'est le bouquin qui tue, hein, c'est vraiment, bah, je peux rien dire de plus, hein, vraiment, franchement.
minutes et j'ai complètement oublié le temporaire, je suis désolé du ça. Et on n'a pas encore entamé la télévision. Merde, je fais des efforts, quoi. T'as vu, c'est Terry qui m'a prêté son t-shirt.
Ouais. Là, tu vas encore faire des efforts parce que c'est toi qui vas me faire la première rubrique, en fait, hein, de télé, qui concerne une petite série d'animation sympathique qui va démarrer sur Game One ce soir.
Aïe, hein.
Très tard, hein, à 23h35 sur Game One. Il s'agit, eh bien, me semble, d'une manga que tu as chroniqué, que vous avez chroniqué, parce que c'est quand même une des grosses références, hein, dans le monde de la manga. Il s'agit de Samurai Champloo.
Et je l'ai pas vu. Et Samurai Champloo, pour faire très vite, ça a été fait par la même équipe que ceux qui ont fait Cowboy Bebop.
Ouais, Shinichiro Watanabe.
Voilà. Sauf que la bande son n'est plus signée par Yoko Kanno, qui avait fait une bande son absolument monstrueuse, hein, un travail furieux, jazzy, où elle avait travaillé avec les Tambours du Bronx à Paris, avec ceux qui marchent debout d'ailleurs aussi à Paris, hein, ils sont rien que pour la série télé, à Nashville, à New York avec les plus grands. Et là, ce qui s'est passé, et ben, ils ont dit, on va reprendre le même délire, c'est-à-dire une histoire complètement délirante. Cowboy Bebop était de la science-fiction. Samurai Champloo, c'est une histoire de samouraï. On est au début de la restauration Meiji, c'est-à-dire quand le shogun a été destitué par les Américains en 1860. Oui, et où donc, eh ben, c'est à nouveau l'empereur du Japon qui règne sur le Japon et qui décide de ce que l'on y fait. Et là, à nouveau, un rôle, je vais dire, qui huissier, un rôle divin. Et les samouraïs, eh ben, sont... c'est l'ancienne époque. Donc, ils sont un petit peu jetés dans les rues, mais ils sont plus...
Ils sont un peu largués, quoi.
Voilà. Et ils vivent un petit peu de rapine, c'est plus des ronins, quoi. Effectivement, c'est, ils ont plus vraiment de seigneurs. On suit trois personnages... qui sont donc des, il y a deux samouraïs et une geisha si je me souviens bien.
Oui.
Sachant que ce qui se passe, c'est le traitement de la série qui est à voir. Primo, c'est traité de manière grave. Ensuite, il ne faut pas s'étonner, il y a un samouraï qui a des lunettes et des fois, de temps à autre, ils prennent leur leur katana et ils s'en servent comme si c'était un micro, ils se mettent à toaster. C'est du rap, la bande son est rap, elle est monstrueuse. Ouais. C'est un immense délire que cette série, j'ai vu un épisode mais elle est à pleurer tellement qu'elle est bien foutue. Au niveau musical, une fois de plus, les Japonais sont très très forts de ce côté-là. Ils sont pas franchement créatifs, mais ils sont très forts pour ce qui est de s'approprier un genre et d'en faire quelque chose de très différent. Il y a qu'à voir des groupes comme Alkali, YMCA, ou encore des trucs qu'on passe un peu plus sur FMR, comme, ah merde, je les ai oubliés, Kemuri, dans le rôle du ska, dans le style ska, ou, DJ Shadow. Là-dessus, ils sont vraiment d'un très haut niveau. Là aussi, c'est un budget à peu près équivalent qui a été mis dans la bande-son, sauf que ça n'a pas eu le même succès que Cowboy Bebop, parce que Cowboy Bebop, ça a été un niveau très haut. Mais c'est à voir pour la mise en scène, pour la mise en couleur et pour la bande-son.
Donc Samouraï Champloo, hein, c'est...
Que j'ai pas vu.
C'est sur Game One, à partir de ce soir, 23h35.
Oh merde. Et rediff.
Oui, certainement. Hein. Mais j'ai pas noté les rediffs, alors bon, il faudra consulter ton programme télé. Autre nouveauté complètement inédite, et ça c'est sur Canal+. Alors c'est dans la tranche horaire un petit peu bâtard de sitcom de Canal+. Actuellement c'est à 18h20, on peut voir Old Christine. Alors ça c'est une série sitcom dont je n'ai pas parlé, et pourtant j'aurais pu le faire parce que sa protagoniste principale, Christine, l'Old Christine, est interprétée par Julia Louis-Dreyfus, la cousine de Robert Louis Dreyfus, qui était bien entendu, eh bien, le côté féminin de Seinfeld dans la série de Jerry Seinfeld. Et là, eh bien, c'est elle qui est héroïne donc de cette sitcom All Christine, qui va prendre fin sur Canal. Vous pouvez encore le voir la semaine prochaine. Tous les jours à 18h20, il y a deux épisodes en version multilingue, donc il n'y a pas de problème, vaut mieux mettre la version anglaise, sinon ça vaut pas le coup. Et elle est assez rigolote, hein, All Christine, tout simplement parce que bon, ça raconte les déboires et les aventures d'une nana qui se fait larguer par son mec, qui reprend, qui sort avec une autre nana qui s'appelle également Christine. Donc elle devient la Old Christine, hein, d'un mec avec ses gosses et tout. Enfin bon, voilà. Et donc c'est le traitement sitcom et tout. Sitcom un petit peu qui n'est pas tourné uniquement dans un seul endroit. Alors c'est pas le triple duel des sitcoms qui sont tournés sur un plateau avec du public et tout le bordel.
Et
là il y a des extérieurs et tout. C'est plus proche de Friends par exemple, hein, au niveau des situations que de Seinfeld. Ça fait mouche quand même parce que bon, Julia Louis-Dreyfus, bon, est quand même très forte à ce jeu-là. Et bon, profitez-en. La nouvelle donc série inédite qui va arriver à partir de jeudi 18h20 sur Canal+, c'est Philadelphia. Alors, déjà 3 saisons de cette sitcom qui est sortie sur Showtime aux États-Unis. La première saison, on ne faisait que 7 épisodes. On a vu que ça marchait. Pour la deuxième saison, on en a fait 10. Et pour la troisième saison, ben, on en a fait 15. C'est produit par Danny DeVito. Danny DeVito qui d'ailleurs fait des apparitions comme ça en tant que client, parce que eh bien ça se passe dans un bistrot qui est tenu par une bande de potes qui sont de descendance écossaise et qui donc tiennent un bistrot qui se veut un petit peu un pub écossais, et en fait ce n'est ni plus ni moins que des brefs de comptoir, hein, par les gens qui tiennent le bistrot et les gens qui arrivent dans le bistrot pour s'assouiller la gueule. Très souvent, ils sont complètement bourrés, enfin bon, et puis ils racontent des conneries pas possibles. Alors, ça a été créé par Rob McElhenney, qui joue le rôle principal de Mac. Il y a également Charlie Day, hein, qui joue le rôle de Charlie, qu'on a pu apercevoir dans New York 1911, et Glenn Overton, qui joue le rôle de Dennis, qui joue également le rôle de Dr. Cooper dans la saison 10 d'Urgence. Et la présence féminine, c'est Caitlin Olson, qui joue le rôle de Dee, qu'on a pu apercevoir dans The Riches. C'est elle qui joue le rôle de la blonde à qui manque le bras, là, qui est la voisine des Riches dans la série. Riches, dont la première saison vient de s'achever sur Canal Jimmy de façon assez bizarre, hein. C'est même pas un cliffhanger pour la deuxième saison. On se dit, tiens, il va y avoir la suite après. Bah non, ça s'arrête, la fin de saison s'arrête. On se dit, merde, c'est bizarre quand même. Enfin bon, ça laisse un petit goût de...
D'inachevé,
comme ça. Mais bon, en même temps, on se dit, bah, il va falloir attendre jusqu'à la prochaine saison. C'est dur, hein. Tellement c'est bien, les Riches, quoi. Alors, Philadelphia, donc, c'est sur Canal Plus à partir de jeudi prochain, 18h20. Il y a deux épisodes, hein, qui sont diffusés à la suite. Mais comme c'est sitcom, hein, c'est le format sitcom, à savoir 25 minutes. C'est tout pour les inédits. Je voulais juste vous signaler que, New York District, la saison 17, qui est diffusée tous les vendredis, sur 13e rue, eh bien vous avez loupé les deux derniers épisodes de la saison 17, c'était hier soir, hein, donc deux épisodes absolument magnifiques. Le premier, Les Horreurs de la Guerre, où une banale enquête policière, hein, sur des sans-abri ex-vétérans de la guerre d'Irak qui reviennent, qui sont à la rue et tout, qui sont massacrés à mort
sociale, ouais.
Et ça se termine par une critique de l'interventionnisme américain en Irak et du traitement qu'on fait aux anciens combattants d'Irak, dans le cas qui nous donne, mais aux anciens combattants en général. C'est très très fort, et surtout l'épisode, le dernier épisode de la saison 17, l'épisode 22, hein, qui s'appelle La Famille de la Haine. Alors là, je m'amusais hier soir, et je disais, c'est marrant, hein, parce que vu le casting et vu l'histoire et vu ce qui se passe dans l'histoire, on s'est dit que bon bah ils avaient plein de pognon encore en réserve et tout, quoi, et ils se sont dit, on va foutre tout ce qui nous reste du budget de la saison 17 dedans, avec quand même Jeremy Sisto, Jeffrey Tambor qui était dans le Larry Sanders Show entre autres, et Ari Hamlin en guest star. Ça s'appelle La Famille de la Haine. Alors là, ça nous plonge dans une histoire absolument abracadabrante, mais alors incroyable, hein, d'une famille dont le père, joué par Ari Hamlin, est un sénateur de New York qui vise la présidentielle. C'est tuant, c'est pour des histoires comme ça que New York District mérite vraiment mérite d'être est une des meilleures séries policières, hein, une des séries de police procédurale, on va dire, qui est actuellement à la télé. Pour des épisodes comme ça, si vous ne devez voir que quelques épisodes de New York District, bah regardez La Famille de la Haine, là, vous allez comprendre ce que c'est, un grand épisode de série policière. Avec d'ailleurs dans l'épisode, bah à la fin, hein, je vous l'avais annoncé, hein, que à partir de la saison 18, eh bien il n'y aura pratiquement, bon, il y en a plus, hein, de toute façon, hein, d'acteurs de la série originelle depuis le début, mais enfin Sam Waterston, qui jouait le rôle de Jack McCoy, hein, donc le district attorney, c'est-à-dire la partie civile, la partie juge, le tribunal, eh bien tire sa révérence à la fin de cet épisode, hein, il démissionne et tout, il en a marre, il râle le cul et tout, enfin bon, c'est pas mal, quoi. Ça fait partie du scénario, pas de problème, on sait qu'on le retrouvera pas la saison prochaine, et que donc il nous restera des anciens, bah, que Jesse L. Green, hein, c'est-à-dire Jesse L. Martin, c'est-à-dire l'inspecteur Green, le Black, hein, qui est actuellement avec Mila Govich. Mais c'est vraiment un épisode, alors là, très fort. C'est rediffusé demain à partir de 18h20, avec tout d'abord donc Les Horreurs de la Guerre, et ensuite 50 minutes plus tard, La Famille de la Haine, donc de New York District, à ne pas louper, vraiment à ne pas louper. C'est vraiment très 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 grand, quoi. Tu vois que j'arrive quand même à déborder, ouais, allègrement.
13h17.
Ouais. Alors, une petite liste de films. Ah non, avant d'aborder, voici, je le ferai à la fin. Titré, film avec des grosses bêtes méchantes dedans. Ce soir sur Energy 12. C'est un spécial sur Energy 12 avec deux films avec des grosses bêtes méchantes dedans. Tout d'abord à 20h45, Morsure, de Terry Randall, 96, avec William Catt, House, rappelez-vous, pas le docteur, hein, le film House. Là, il s'agit bien entendu, il y a plein de serpents dedans. À 22h15, Crocodilus, de James D. Cox, avec Taryn Reef, Dax Miller et Duncan Rager. Ça, c'est un film australien. Sur FX également ce soir, à 21h, Soif de sang, Alors bon, bah, si on considère que les vampires sont des grosses bêtes méchantes, y a pas de problème, ça. Là, c'est le film
Chauve-souris.
Et ouais. C'est le film de Rod Hardy de 79, avec, cette immense actrice, qui est restée, inconnue, Chantal Contoury, mais également David Hemmings et le grand Henry Silva. Ça, c'est sur FX ce soir à 21h. Demain, sur Syfy à 23h, La Mouche, le classique de Cronenberg, le film que ça lui a rapporté le plus de pépettes, hein, le seul succès, on va dire, au box-office de Cronenberg, hein, c'est La Mouche avec Goldblum et Gina Davis. Sur FX, demain soir à 21h, Le Chat Noir, hein, Lucio Fulci, qui est pas le meilleur, mais enfin, bon, qui se laisse regarder quand même, décliné de la nouvelle de Edgar Poe. Avec Mimsy Farmer, Patrick Maggi et David Warbeck. Lundi, sur M6 à 20h50, Jurassic Park 3, de Joe Johnston.
Oh non, le téléfilm!
avec Sam Neill, William H. Macy et John Deal. Il y a également, si on considère Steven Seagal comme étant une grosse bête méchante. Une soirée Steven Seagal sur TMC lundi avec à 20h45 le protecteur que
ah
vous
oui
dont je vous avais parlé la semaine dernière, le Pucci Léon un petit peu tout pourri de 2004, mais à 22h20 il y a quand même Terrain Miné, réalisé par Steven Seagal en 93 avec Michael Caine, Joan Chen et Robert Liermet, où il
c'est
fait
pour
du...
sauver les petites bêtes méchantes justement.
Non, c'est pour sauver les Inuits en Alaska celui-là. Il y a également sur la chaîne Action, en même temps, hein, à 20h40, lundi prochain, Clémentine, de Kim Doo-young, un film coréen avec Steven Seagal. C'est Steven Seagal en Corée, parce que tous les autres, c'est des Coréens, quoi. C'est le seul non-coréen, mais c'est réalisé par un Coréen. Donc.
Après, il y a eu un Steven Seagal en République Tchèque, un Steven Seagal en Hongrie, si je me souviens bien.
Ouais, bah, c'est celui dont j'avais parlé la semaine dernière, là, avec Agnieszka, Agnieszka Hollander, je sais pas quoi. Petit aparté avec pas de film, il faut dire que lundi il y a quand même vachement le choix. Et là, bon, bah, il y a deux films classiques, pas avec des grosses bêtes dedans, hein, mais bon, que c'est toujours bien de les voir, de les revoir, hein. Sur TCM, tout d'abord à 20h45 lundi prochain, U-Turn, l'excellent polar de Oliver Stone. Avec Sean Penn, magnifique, Jennifer Lopez qui monte son cul, Nick Nolte, oh très grand, et Billy Bob Thornton dans le rôle d'un garagiste complètement tordu. Là, c'est vraiment c'est le genre de film polar que moi j'aime bien, hein, franchement. Et sur Ciné Polar, à 20h45, ça va être le coup de... On en a parlé la semaine dernière. Mort à l'arrivée, l'original de Rudolf Maté de 1950 avec Edmund O'Brien, Neville Brand et Pamela Britton. On voit le héros, hein, Edmond O'Brien qui arrive au commissariat, oui, je me suis fait empoisonner et tout, quoi. Et à l'époque, en 1950, il faisait déjà empoisonner par une substance atomique. Ah oui, eh oui. Mardi, sur RTL9, Orca, le film de Michael Anderson de 77 avec Charlotte Rampling, que ça valait le coup, là, à l'époque de l'avoir à poil. Robert Carradine, Richard Harris et Beau Derek, là aussi, ça valait le coup de l'avoir à poil à l'époque. Yeah. Bien que, bon, elle rentre toujours le ventre et tout, c'est un peu chiant. Mais là, à l'époque, elle avait pas encore les coquillages dans les cheveux. sur Energy 12, y a Relique de Peter Iams avec Penelope Ann Miller, Tom Sizemore et Linda Hunt. Et sur Syfy, La Mouche de de Chris Wallace qui
et
a été tourné 3 ans plus tard après La Mouche de Cronenberg. Cronenberg qui a dit je fais pas de suite.
Non, mais il avait bien compris.
En plus il a fait faux semblant entre temps, donc bon, ok, quoi, il était pas perdant, hein, avec Eric Stoltz et Daphne Zuniga. C'est La Mouche 2. Donc c'est mardi prochain. Mardi on a également sur la chaîne Action Razorback, le film de Russell Mulcahy, hein, qui a fait connaître d'ailleurs Russell Mulcahy à l'époque, hein, film australien avec ce gros sanglier là qui va tout déballer dans l'outback australien. C'est à regarder quand même, ça se laisse voir. À mercredi sur Energy 12, multi-rediffusé, j'ai jamais regardé en entier parce que bon, c'est quand même un peu d'obèse qu'il faut dire ce qui est. C'est Marabunta avec Eric Lutus et Mitch Pileggi.
Ça craque le nom.
Alors ils sont mis à deux, hein, quand même pour faire ce film, Jim Charleston et George Manas. Marabunta, c'est les fourmis tueuses là qui viennent et qui bouffent tout et tout, quoi. Mais Mitch Pileggi qui joue le rôle du shérif, tu vas voir, il va tous les niquer. Vendredi, je termine par deux gros nanars qui ont quand même été des films qui sont sortis en salle et qui sont restés pas mal de temps. à l'affiche. Tout d'abord sur Canal+, vendredi prochain à 20h50, des serpents dans l'avion.
Oh oui, ouais,
avec Samuel L. Jackson et Julian Margulies. Et pour faire concurrence, TPS Star, en même temps, vendredi prochain, nous sort Arak Attack, le film d'Ellery El Gayem avec David Arquette et Carrie Vurer. Hein, donc, à voir pour la plastique magnifique de Carrie Vurer, bien sûr. Le reste du temps, les araignées, on s'en tape un petit peu. Et c'est tout pour la télé. Alors par contre, je voulais vous en parler, mais enfin bon, comme j'ai fait mes papiers un petit peu n'importe comment, c'est également une séance de dédicace cet après-midi, mais pas que, hein, c'est également lecture croisée à propos des auteurs de polar, mais auteurs au féminin. Ça se passe à la librairie Priva cet après-midi à partir de 15h, avec la présence de 5 auteurs de polar, Patricia Paris, qui sont de la région en plus,
oui, hein, oui.
Patricia Paris pour Petit Arrangement avec l'Infâme, Solène Colter pour Je suis morte et je n'ai rien appris, Emmanuel Urien pour Toute humanité mise à part, Fabienne Ferrière pour Un chien du diable et Magali Duru pour Les beaux dimanches. Hein, ces 5 femmes écrivains sont à la librairie Priva cet après-midi à partir de 15h. Dédicace, lecture croisée et tout. Et bien entendu, certainement un petit peu d'humour noir. Là, je fais rien que paraphraser ce qui est marqué dans la dépêche. M'emmerde pas.
Samedi prochain, à la librairie Gibert, cette fois-ci, donc rue du Thor, au premier étage, à partir de 14h30, Nicolas Poupon sera là pour Le cri de l'autruche. Le troisième tome s'appelle Le chant du kangourou. Et Frédéric Salcedo pour Ratafia, le quatrième tome, Dans les coins sto bizarres. Ces deux albums viennent de sortir dans la collection Très étrange chez Milan Édition. Et comme on est à la fin du supplément week-end, c'est que Thomas n'est pas là, c'est moi qui vais me taper le résumé avec une année rallongée, un Thomas alité, un camembert du génie, un Batman centenaire, un combat de put de Pitbull, d'ailleurs le pit de l'histoire s'appelle Razorback, comme dans le film, un trimestriel par quatre de la corruption, des sitcoms et des films à bestioles méchantes et même Steven Seagal, une piqûre de Steven Seagal, ça fait très mal. Et si vous avez manqué tout ça, heureusement, vous pouvez réécouter l'intégralité de l'émission Le Supplément Week-end avec les chroniques écrites, mais aussi fouiller dans nos archives, laisser vos commentaires, poser vos questions et gagner des cadeaux, qui sait. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplémentweekend.tk, supplémentweekend.tk, sans accent ni tiré. Sinon, vous cherchez Supplément Week-end FMR ou Supplément Week-end MP3, ou si vous nous écoutez déjà sur le web, eh ben vous savez où nous chercher. Bref, il n'y a pas de problème, posez vos questions à notre équipe de spécialistes, nous saurons vous répondre avec la plus mauvaise foi possible. Tout de suite, à suite des programmes sur Radio FMR avec votre cahier sportif. À 15h, Ja, Not Dead, c'est du reggae. À 17h, ça c'est la bonne viande de la découverte musicale. 18h, Big Bang. 19h, Made in Trance de l'électro. 20h, Les Hétéros, expérience de l'électro bien barré. 21h30, Two Step avec 9 Love. Et à 23h, du rock avec le potager. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, du moins Thomas sera de retour, j'espère. Même heure, même fréquence. Same bat channel, same bat. Et de suite, je vous laisse avec du sport qui donc prend la suite avec une prog musicale comme d'habitude de fou. Ciao, bye bye. N'hésitez pas à nous écouter et n'oubliez pas, la semaine prochaine, on vote. Donc écoutez FMR de midi à 13h toute la semaine. Pour avoir les candidats, n'hésitez pas aussi à leur poser des questions. Je compte sur vous pour que ça soit saignant. Non mais... Allez, ciao, bye.